tout le monde m'entend, c'est bon. Et ben, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir partager cette journée avec vous. Alors, j'ai l'impression que ça fait un peu des larcins. Ok, c'est mieux. J'ai la voix un peu cassée. Alors, soit c'est Dieu qui m'empêche de parler, ou c'est juste que j'ai des élèves qui ne sont pas très sages, c'est possible aussi. Voilà. Et bien, je vous propose qu'on commence. Est-ce que vous voyez dans les films américains des stéréotypes des femmes un petit peu hyperactives qui travaillent, qui élèvent plusieurs enfants, qui doivent préparer 50 donuts pour la fête de l'école le lendemain, un peu comme Lynette dans Desperate Housewives? Et ben, je me présente du coup, Priscilla, j'ai 4 enfants qui ont entre 11 et 5 ans. Je travaille, je suis prof d'anglais, je suis investie dans mon église, dans les associations de parents, dans l'enseignement des femmes. Et du coup, vous pouvez facilement l'imaginer, la tranquillité est une denrée assez rare chez moi. Mes journées, elles commencent souvent par des enfants qui se plaignent, qui ne veulent pas aller à l'école, des disputes dans la queue pour la salle de bain, des verres de jus d'orange renversés. Et un jour, je me suis dit, en fait, je voudrais juste déjeuner en paix. C'est la seule chose que je voudrais. Du coup, j'ai mis mon réveil une heure plus tôt. Donc le matin, mon réveil sonne à 6 heures. Je me lève discrètement comme un ninja pour réveiller personne. Je me fais couler une tasse de café. Je me mets sur le canapé, dans mon plaid, toute seule. Et voilà, c'est ça la sérénité. C'est tout pour aujourd'hui. Non, je plaisante. Mais quand je suis seule sur mon canapé, il y a un choix qui s'offre à moi. Je peux soit reprendre mon plan de lecture de la Bible en un an, me laisser renouveler par la parole de Dieu, ou je peux scroller sur mon téléphone et recevoir en pleine face l'actualité du matin, me laisser accabler par des bruits de guerre, des bruits de catastrophes naturelles, des crises sanitaires, des crises économiques, technologiques, des nouvelles lois bioéthiques effrayantes, des ministres qui se succèdent les uns après les autres, et être plongé dans l'angoisse, en fait. Et je peux vous garantir que selon ce que je choisis, ma journée se déroule pas de la même manière. Je me rappelle un peu avant la rentrée, j'avais lu un article sur une petite ado qui s'était fait agressée dans la forêt par un voisin pour une histoire de jeu vidéo, et moi je devais envoyer ma fille à l'école toute seule le lendemain, et en fait j'en ai pas dormi de la nuit. Je disais à mon mari, mais il faut que quelqu'un l'accompagne. Voilà. Pour d'autres, pour ma collègue par exemple, elle est angoissée par tout ce qui touche à l'environnement. Donc c'est ma collègue qui me reprend quand je jette mon café dans la mauvaise poubelle, parce que le café, ça va dans le compost, voilà. Elle souffre d'un mal nouveau qui s'appelle l'éco-anxiété. Elle se pose des questions comme, qu'est-ce que la planète va devenir? Est-ce que c'est raisonnable de faire des enfants aujourd'hui? Notre démographie connaît d'ailleurs une baisse inédite, puisque les jeunes aujourd'hui hésitent à fonder des familles dans les circonstances actuelles. Et je les comprends. Moi aussi, je me suis posé la même question quand j'étais enceinte de ma dernière fille, confinée dans un appartement avec 3 autres enfants, angoissée par tout ce que j'entendais aux infos sur le Covid. Est-ce que je fais bien d'amener un enfant au monde dans cette crise sanitaire? Elle était déjà en route, alors j'avais plus trop le choix de toute façon. Mon mari, lui, il est affecté par tout ce qui touche aux nouvelles de guerre, la géopolitique. Il s'identifie beaucoup à ceux qui doivent défendre leur pays, leur famille, comme en Ukraine. Il écoute pas mal de podcasts dans la voiture sur les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde, en fait. Ça met une bonne ambiance dans les trajets de voiture. Et on a sûrement l'impression de se donner une forme de contrôle en écoutant des podcasts, en lisant des articles, en regardant les infos. Mais en réalité, c'est juste un nouveau type d'angoisse qui s'installe dans nos vies. Et contrairement au stress traditionnel qui est lié à une source de stress identifiable, comme le travail ou la charge mentale, le stress qui vient de l'actualité, il est plutôt diffus. Il naît d'un sentiment d'impuissance, en fait, face à des décisions qui sont prises loin de nous, mais qui pourtant ont des conséquences qui menacent notre sécurité, notre avenir et celui de nos enfants. Alors, comment il se manifeste chez vous, ce stress ? Est-ce que, des fois, vous avez la boule au ventre en regardant les infos, des insomnies, en pensant un peu à votre quotidien, des discours un peu pessimistes, de toute façon, ça va aller que vers le pire. Est-ce que vous êtes team plutôt résignation ou agitation ? Moi, je suis plutôt team agitation. Je milite, je m'investis dans des associations pour essayer de rendre le monde un peu meilleur, mais une question s'impose quand même. Comment est-ce qu'on peut rester sereine face aux incertitudes dans les temps troublés qu'on vit? Parce qu'on sait que même si c'est une époque compliquée, en fait, ce sont les temps que Dieu nous donne de vivre. Et forcément, ce sont aussi les temps pour lesquels Dieu nous équipe. Alors, comment on fait pour ne pas céder à l'angoisse? Quel réconfort, quel espoir est-ce qu'on a? Est-ce que Dieu est vraiment au contrôle? Est-ce qu'il est assez puissant pour intervenir? Et si c'est le cas, qu'il est assez puissant, ben, est-ce qu'il a envie d'intervenir? En bref, peut-on envisager l'avenir avec assurance et sérénité? Je crois que notre anxiété, elle est souvent liée à ce sur quoi on porte nos regards. Plus on se concentre en fait sur ce qui nous entoure, l'actualité, plus notre inquiétude grandit. Et plus on fixe nos regards sur Dieu, et plus la paix grandit. Et ce matin, je voudrais nous inviter à lever les yeux vers Dieu, à élargir notre vision de Dieu en parcourant un texte magnifique du prophète Ésaïe au chapitre 40. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre 40 parce qu'il est un peu long, mais on va le parcourir au fur et à mesure. Et on va d'abord recevoir le réconfort et l'espérance que ce texte nous apporte. Dieu vient dans nos temps troublés, il vient nous sauver. Ensuite, on verra que les promesses contenues dans la Bible, en fait, elles sont garanties par la nature de Dieu. Dieu est puissant, il peut nous sauver. Et enfin, on verra que sa puissance, elle va de pair avec un amour immense, que Dieu veut nous sauver. Ah, peut-être qu'il faut l'allumer. Désolée. Hop. Ah, c'est bon. Voilà, donc, pour celles qui veulent, je vous invite à ouvrir vos bibles à Ésaïe 40. Sinon, le texte sera aussi affiché. Donc, comment rester sereine face aux incertitudes dans les temps troublés? Notre texte de ce matin, il s'adresse au peuple de Juda, dont le péché a atteint son comble. La sentence de Dieu tombe, il les a prévenus multiples fois avant, ça sera l'exil, la déportation à Babylone. Alors, ironie de l'histoire, au chapitre 38, le roi Ézéchias de Juda vient justement de faire un petit tour de son palais à ces mêmes Babyloniens. Il a mal choisi ses alliés. Et donc Dieu prépare son peuple pour que lorsqu'ils seront loin de chez eux, dans la pauvreté, dans l'incertitude, face à leur avenir, qu'ils aient une espérance à laquelle se raccrocher, pour pouvoir rester dans le calme et la confiance dans leur temps troublé. Et quel est ce message d'espérance qu'Ésaïe leur adresse? Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, et qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Ce mot « consoler » qui est répété deux fois, « parler au cœur » nous révèle en fait toute la tendresse de Dieu. Nous les femmes, on aime bien qu'on nous parle avec tendresse. Et moi je sais que quand je suis angoissée, il n'y a rien qui m'apaise plus que quand mon mari me prend dans les bras et dit « Allez, c'est bon, ça va bien se passer. » Et là, la pression, elle redescend d'un coup. Et ces mots, ben, « mon peuple, votre Dieu », ils devraient résonner à nos oreilles un peu comme un refrain qu'on a déjà entendu. C'est la promesse faite à Abraham, le grand projet de Dieu qui guide toute l'histoire. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Et comme toujours, eh ben Dieu tend la main à son peuple pour continuer de mener à bien ce projet. Le mot salaire, il souligne en fait que le peuple a reçu la somme exacte pour son péché, ni plus ni moins. En fait, aujourd'hui, on vit toutes sous les conséquences du péché, le nôtre, celui des autres. Pour Israël, l'exil, c'était une conséquence de leur idolâtrie, des mauvais choix de ses dirigeants. Et nous, bah, les temps troublés qu'on traverse sont également des conséquences normales du péché, hein, liées à la chute. Mais une chose est sûre, l'exil est temporaire. Et Dieu n'oublie pas son peuple. Et quel est ce message de consolation? La colère de Dieu a une fin, mais pas sa tendresse. Et cette promesse, elle est vraiment notre appui dans les temps troublés. Ce message d'espérance, il est porté par trois voix. La première voix, elle crie dans le désert. « Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine, les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Le désert, dans la Bible, il symbolise souvent le lieu d'épreuve. Et c'est dans ce désert que Dieu vient nous rejoindre. Il n'est pas un Dieu lointain ou indifférent. En fait, il trace lui-même une route, une autoroute bien praticable pour nous ramener avec lui. La fameuse autoroute 163 dans Forrest Gump. Et en fait, en entendant cette voix qui crie dans le désert, notre regard, il se détourne de ce qui nous fait peur autour de nous pour se fixer sur l'arrivée de Dieu. Pendant le confinement, ma sœur et moi, on habitait pas très loin l'une de l'autre. Et de temps en temps, pendant notre heure de sortie, on s'asseyait à 10 mètres l'une de l'autre. Mais c'était quand même pas... Je me sentais quand même seule. Et le jour où on a pu enfin dépasser ces 10 mètres, se serrer dans les bras, mais ouf, quel bonheur! Et c'est ça que Dieu y fait. Il franchit la distance de sécurité. Il vient nous rejoindre dans nos temps troublés. On traverse les mêmes épreuves que nos contemporains, mais jamais seuls, parce que Dieu nous rejoint dans notre désert. Alors quand on lit les prophéties, il faut garder en tête qu'il y a plusieurs niveaux d'accomplissement. Le premier niveau dans cette prophétie, il est historique. Dieu a réellement délivré son peuple de l'exil en 539 avec le roi perse Cyrus. Et cette voie dans le désert, elle a aussi trouvé un accomplissement messianique avec la fin de l'exil spirituel. C'est la voie de qui ? La voix de Jean-Baptiste, qui appelle le peuple à aplanir ses sentiers, à changer de comportement pour préparer la venue de Jésus. Et la promesse, elle a été tenue. Hein? Jésus est venu en personne nous rejoindre dans nos misères et nous ouvrir un chemin vers le Père. Et un jour, cette prophétie, elle trouvera un plein accomplissement lors du retour de Jésus-Christ que rien ne pourra empêcher. Ni montagne, ni vallée, ni pandémie, ni guerre, il va revenir dans sa gloire pour nous ramener dans notre patrie céleste. Et ce jour-là, tout ce qui tourne pas rond sera rétabli, la création sera guérie, l'humanité sera réconciliée et la mort définitivement vaincue. Et quel jour ce sera, mes amis? Quel espoir pour nous qui avons aujourd'hui vu les deux premiers niveaux d'accomplissement de cette prophétie. Et donc on peut avoir confiance que sa gloire sera encore révélée. Pourquoi? Verset 5, parce que c'est l'Éternel qui l'affirme. La deuxième voix dans notre passage, elle proclame aussi un message d'espérance. Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Est-ce que vous avez déjà reçu des fleurs? Ouais, j'espère. Mon mari, lui, vend des plantes. Il m'offre des fleurs en pot. Un jour, je lui ai dit, je préférerais recevoir un bouquet. Il m'a dit, mais les bouquets, c'est une aberration. Ça meurt, ça fane en 3 jours. Regarde, mes plantes en pot, là, elles durent 2 ans. Je lui ai dit, oui, mais justement, ça t'offre l'occasion de m'en offrir plus souvent. Mais sur le fond, il a raison. Les fleurs, c'est une aberration. Ça fane, ça, l'herbe, ça jaunit. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Ésaïe? Il dit, les hommes sont comme de l'herbe. On vient de voir un Dieu tellement grand qui fait trembler la création, qui exauce des vallées, qui rabaisse des montagnes. Et nous, on ne voit même pas sur la carte. On est de l'herbe. Les Babyloniens, de l'herbe. Les Assyriens, des pâquerettes. Poutine, Trump, Kim Jong-un, des pissenlits. Tout ce qu'on redoute le plus, la guerre, le chômage, la maladie, c'est éphémère, c'est des vanités. Dieu souffle dessus et ça disparaît. Littéralement, au chapitre 38 dans Ésaïe, il y a un passage où Dieu souffle sur les Assyriens venus assiéger Juda et il y en a 180 000 qui meurent. 180 000. Tous les tyrans de l'histoire, ils ne vivent plus que dans les livres. Mais regardez au verset 8. Il y a une chose qui demeure, qui ne disparaît pas quand on souffle dessus, la parole de Dieu. Dieu a promis de ramener son peuple de l'exil, il l'a fait. Il a promis de révéler sa gloire, il l'a fait en Jésus. Il a promis de revenir, il le fera. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Et concrètement, cette certitude, elle change tout pour nous. Parce que premièrement, si la parole de Dieu ne passe pas, c'est une encre dans un monde où tout bouge sans cesse. Les empires, les modes, la santé, la parole nous offre une stabilité. Deuxièmement, quand les valeurs de notre société deviennent un peu confuses, qu'on commence à appeler le bien mal, le mal bien, la parole nous offre une vérité hors du temps, une boussole qui ne perd pas le nord, que c'est référé quand on doute. Troisièmement, si la parole ne passe pas, ses promesses ne passent pas non plus, son amour inconditionnel, sa présence dans l'épreuve, sa délivrance certaine, on peut vivre avec confiance tout ce que Dieu nous donne de traverser. Et enfin, savoir que tout passe sauf la parole de Dieu, ça remet un peu les choses en perspective. Les épreuves sont temporaires. La souffrance, aussi dure qu'elle soit, elle est limitée. Et la mort n'est pas ultime. La parole, elle est éternelle. Ça nous interroge un peu, je trouve, sur la place qu'on donne, du coup, à cette parole dans nos vies. Vous ne trouvez pas ? Est-ce qu'on se réfère à cette parole dans toutes nos décisions ? C'est la seule chose qui ne passera pas. Est-ce qu'on s'en nourrit quotidiennement ? En fait, ce qu'on laisse entrer dans nos pensées, c'est ce qui détermine, quelque part, notre degré de sérénité. Et j'ai été moi-même reprise un matin, j'étais sur mon téléphone avec ma tasse de café, et en fait, là, le Saint-Esprit m'a vraiment parlé. Il m'a dit, mais Priscilla, c'est pas la peine de mettre ton réveil plus tôt, de te lever à 6h du matin, si c'est pour t'accabler de l'actualité. Donc soit tu lis ta Bible, soit tu dors, mais ce que tu fais là, ça sert à rien. J'ai dit oui, c'est vrai. Je pourrais soit profiter de plus de sommeil, soit profiter de la parole de Dieu, mais ce que je fais là ne sert à rien. Parce que c'est ce qui rentre dans mon cœur qui va déterminer mon degré de sérénité. On a donc la certitude que Dieu vient, que ses promesses sont sûres, mais qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient faire quoi ? Ben, c'est les fleurs qui fanent. Eh bien, la troisième voie de notre passage nous l'annonce avec un certain degré d'exclamation. Vous allez voir, il y a le ton qui monte. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains pas, et dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras, il commande. Son salaire est avec lui, ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. On peut se réjouir et crier avec force, hein, parce que l'Éternel vient faire justice, avec puissance. Il vient avec ses gros bras, ses tatouages, pour triompher des ennemis, rétablir l'ordre, faire taire tous ceux qui se prennent pour Dieu, les Babyloniens qui ont décimé son peuple, les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu vient avec puissance. Mais il est également question d'un autre bras, un bras fort et un bras plein de tendresse, qui prendra les agneaux, qui conduira les brebis qui allaitent. C'est nous, ça. Il ne vient pas juste délivrer son peuple, mais il vient le conduire et le ramener en sécurité. Au verset 11, on voit l'ombre de Jésus, le berger ultime, annoncé 500 ans avant sa venue, celui qui dira plus tard, en Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Son salaire, sa récompense dont il est question ici, c'est nous. C'est le peuple qui s'est acquis à la croix. Et je ne veux pas qu'on imagine Jésus comme un poster des années 80, un homme un peu lisse, habillé en bleu ciel, avec un mouton dans les bras. Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, c'est le guerrier triomphant qui a aimé ses brebis jusqu'au bout, qui a porté nos fautes pour que Dieu puisse continuer d'être notre Dieu et que nous puissions continuer à être son peuple. Il est cette parole qui subsiste éternellement. Il est la gloire de Dieu révélée. Et voilà pourquoi on peut être sereine face à l'incertitude. Parce que voici notre Dieu. Hein ? Il vient nous rejoindre dans nos temps troublés. Sa parole, elle est sûre. Il vient avec puissance, mais aussi avec tendresse, pour nous ramener à la maison. Et ce message porté par Ésaïe, eh bien, Dieu nous appelle à le proclamer à notre tour. Aujourd'hui, c'est nous, les voix dans le désert, qui sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle à nos contemporains. Paul, il écrit, mais si Dieu vous console dans toutes vos afflictions, c'est pour que vous aussi, vous puissiez consoler tous ceux qui sont affligés. on a un rôle à jouer aujourd'hui, à dire à nos collègues, ben oui, la planète se réchauffe, c'est vrai, on doit la préserver, mais laisse-moi te parler de la Terre comme Dieu l'avait créée et de la nouvelle Terre qu'il est en train de nous préparer. Pour dire à mon mari, je vois que tu es inquiet quand tu lis tous ces articles sur la guerre, mais ne les mets pas dans la voiture, s'il te plaît. Ne redoute pas, mon mari, tous ceux qui peuvent faire périr le corps. Jésus a donné sa vie pour nous. Et rien, ni la mort, ni les puissances, ni les dominations ne peuvent nous séparer de cet amour. Et ce n'est pas toujours facile d'être la voix dans le désert. Demandez à Jean-Baptiste, manger des sauterelles, il s'est fait couper la tête. On a peur du rejet. On a peur de passer pour des ringardes, des fanatiques, ou alors on a eu une mauvaise expérience en témoignant, ou même une mauvaise expérience de Dieu lui-même. Est-ce qu'il est possible que parfois on a du mal à convaincre les autres de la puissance de Dieu parce qu'on n'est pas convaincu nous-mêmes ? On se dit, ben, si Dieu il est vraiment tout-puissant, comme nous le dit ce passage, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci ou cela? Pourquoi le monde va si mal? Et notre vision de Dieu, elle est alors façonnée par notre expérience limitée de ce qui nous entoure. Mais Ésaïe, il prend le problème dans l'autre sens. Il dit, je veux vous donner une vision de Dieu, une théologie de Dieu, qui ensuite vous permettra d'appréhender nos temps troublés avec sérénité. Pour que même quand on ne comprend pas ce qui se passe, comme les gens dernièrement au cinéma, ils regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que je suis trop grande, eh ben, ils puissent avoir la ferme assurance que Dieu est au contrôle, même s'ils ne voient pas ce qui se passe. Et quelle théologie est-ce que Ésaïe nous donne, du coup? Il dit, Dieu est un Dieu qui vient vous sauver. Mais Dieu est un Dieu qui peut vous sauver. Hein? Dieu peut nous sauver. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions du ciel avec sa paume? Qui a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance? Eh bien, pas moi, en tout cas. Imaginez Dieu jaugeant l'océan Atlantique dans le creux de sa main. Une goutte d'eau. Imaginez Dieu pesant les Alpes sur sa balance de cuisine, comme un gars en train de faire un gâteau. Voilà. Dieu façonne la terre comme un boulanger pétrirait sa pâte. Et notre sérénité, elle peut venir de notre compréhension de l'immensité de Dieu. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Pas moi. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice, lui a enseigné la sagesse et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Dans la mythologie babylonienne, leur dieu créateur, hein, à ce peuple qui oppressait Juda justement, leur dieu Marduk, leur dieu créateur, il devait consulter les autres dieux avant de faire quoi que ce soit, obtenir un peu comme un permis de construire. Notre dieu n'a besoin de la permission de personne. Il fait ce qu'il veut. Il agit selon sa propre sagesse. Et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Il est la source de la sagesse, la source de toute chose. Il peut tout faire. Et les nations qui faisaient trembler Juda et celles qui nous inquiètent encore aujourd'hui, elles ne sont que poussière à ses yeux. Sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, pas assez pour allumer son barbecue. Les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont que néant et vanité. Imaginez que, un plumeau à la main, faire le ménage, hop, la Russie, hop, Corée du Nord. Hein, on se rappelle les 180 000 Assyriens balayés comme la poussière d'un souffle. Dieu dirige l'histoire. Et même quand on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, le tourment, les troubles, on peut lui faire confiance qu'il sait ce qu'il fait et qu'il est en train de régner sur les nations. À qui donc ? À qui donc voulez-vous comparer Dieu ? À quelle représentation pourriez-vous le comparer ? Ésaïe nous décrit dans le passage suivant un ouvrier qui fabrique une idole. C'est un orfèvre qui la couvre d'or, qui soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Donc voilà, on choisit un bout de bois qui va résister au verre, parce qu'une idole pleine de verre, c'est pas très classe. Hein, on fait une base solide à notre idole, parce que bon, une idole qui tombe, ça inspire pas trop la confiance. On y met une chaîne pour que personne ne la vole, parce que cette idole, elle doit s'occuper de moi, pas des autres. Est-ce que vous voyez le ridicule de la situation, de ces idoles qui dépendent des moyens de ceux qui les construisent ? Si les dieux qu'on se fabrique ne peuvent pas résister tout seuls, que c'est nous qui devons les protéger, ben à quoi elles servent ? Et nous, ça nous fait sourire aujourd'hui. Ces Israélites, ils étaient vraiment trop bêtes. Hein ? Mais est-ce que nos idoles modernes, elles ne sont pas tout aussi ridicules ? On place notre confiance dans un parti politique qui nous décevra à coup sûr, dans la médecine, dans la science, jusqu'au jour où elles ne peuvent plus rien pour nous, dans nos richesses, dans nos biens. Hein, tant que j'ai un toit au-dessus de la tête, tout va bien. Dieu nous a fait à son image et nous, on lui rend l'appareil. On se fait un Dieu à notre image, un peu fragile et instable. Alors à qui est-ce que nous, on compare Dieu aujourd'hui ? Quelles sont les choses dans lesquelles on place notre confiance ? On va réfléchir deux minutes. En quoi est-ce que je place ma confiance ? Quelle est mon idole branlante ? Moi, j'ai découvert l'année dernière que j'avais placé ma confiance dans ma santé. Je me sentais forte, à l'abri de la maladie, un peu capable de tout faire, hein, mon boulot, mes quatre enfants. Ma santé, c'était mon arme pour protéger ma famille, conserver ma place dans la société, dans l'église. Et je confesse aujourd'hui avec honte que j'éprouvais même du mépris pour les personnes qui étaient tout le temps fatiguées, qui étaient souvent malades. Et puis Dieu m'a repris. J'ai commencé à perdre la force dans mon bras gauche, perdre la sensation dans ma jambe. Mes mains tremblent aujourd'hui. Et les questions se sont mises à tourner dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que ma santé va continuer à se dérober ? Est-ce que c'est grave ce qui m'arrive ? J'ai un boulot, j'ai quatre enfants, j'ai des choses à faire. Et en fait, je me suis fait submerger par l'angoisse. Je passais des heures sur Internet à me dire « mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Comment ça se soigne surtout ?» Et la perspective d'être malade et faible m'ébranlait vraiment. Dieu m'a révélé la petite statuette en bois vermoulu que je m'étais érigée. Mon angoisse démesurée, en fait, elle venait du fait que je m'appuyais sur ma santé pour vivre et le socle de ma petite idole était en train de vaciller. Tout peut nous être enlevé. Tout finira par nous décevoir. parce qu'une seule chose demeure, c'est le Dieu d'éternité. Et dans les versets suivants, Ésaïe nous secoue un petit peu. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Un peu comme quand je parle à mes élèves après qu'ils aient fait un truc bête. Vous n'avez pas réfléchi. Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme si c'était une nappe, une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant, qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas de racine en terre. Ils souffrent sur eux, ils se dessèchent. Le tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dieu est au-dessus du cercle de la terre. Il tient le monde dans ses mains. Hein, comme une boule à neige. Et quand le flot de nos pensées nous submerge, le verset 26 nous dit « Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée ?» Hein, les étoiles, il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et sa force puissante. Il n'y en a pas une qui fait défaut. Ces étoiles que tant de peuples adoraient dans l'Antiquité, que certains vénèrent encore aujourd'hui, hein, notre horoscope, ça ne nous apportera pas la sérénité. Soyez sereines, non pas parce que vous connaissez votre avenir, mais parce que vous connaissez le Créateur des étoiles. La vraie question, ce n'est pas comment être sereine face aux incertitudes, mais c'est plutôt, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas sereine en connaissant le Créateur des étoiles? Je pense qu'une piste de réponse, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de contempler sa grandeur. L'application de ce passage, elle me semble assez claire. On a besoin aujourd'hui d'une théologie solide de qui est Dieu. On a besoin de lire des textes comme Job qui nous parle de sa puissance cosmique, de Romains 11 qui nous parle de la profondeur de sa sagesse, d'Apocalypse 4 qui nous montre l'adoration de son trône dans toute sa gloire. On a besoin de prendre le temps de méditer des textes comme ça, lentement, dans la prière. Et quand je dis prière, je ne parle pas de demande élevée à la va-vite, dans l'urgence, hein, mais d'adoration de qui il est. On doit élargir notre vision de Dieu. Et c'est un exercice difficile. D'abord parce que on préfère un Dieu compréhensible, un Dieu un peu manipulable. Notre orgueil à toutes, elle refuse un Dieu souverain. Et puis, ça demande une étude sérieuse de la Bible, de se construire une théologie de la puissance de Dieu. Alors que parfois, quand on lit notre Bible, on aura juste envie de se laisser porter par ce que nous dit la parole, nos émotions. Mais ça demande de la recherche. Parfois, c'est aussi un péché dans notre vie qui peut brouiller notre regard. Ésaïe 59 nous dit « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Alors ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On confesse, on s'humilie et on lève les yeux vers Dieu. Et Dieu se révélera et cette vision élargie de sa grandeur, elle transformera notre foi et elle nous donnera la sérénité dont on a tant besoin. On a vu que Dieu, c'est un Dieu qui vient nous sauver, nous rejoindre dans notre désert. On a vu que Dieu, c'est un Dieu qui peut nous sauver parce qu'il est tout puissant. Et on peut se demander alors, ben, pourquoi il ne le fait pas du coup? Pourquoi il n'intervient pas maintenant? Est-ce que Dieu veut nous sauver? Israël, au verset 27, dit « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant Dieu. » Et si vous êtes comme moi, ben franchement, on se dit souvent la même chose. Oui, Dieu est tout puissant, mais parfois, on a l'impression qu'il a d'autres choses à faire que de penser à moi, que de penser à mon pays, que de penser à tous les gens qui vivent dans la misère, la pauvreté. Mais pourtant, s'il garde un œil sur chaque étoile, sans en oublier une seule, combien plus est-ce qu'il veille sur nous? Sa grandeur, elle ne veut pas dire qu'il est trop grand pour s'occuper de nous, mais qu'au contraire, il est assez grand pour le faire. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, et on ne peut pas sonder son intelligence. J'aimerais bien ne jamais me lasser, ne jamais me fatiguer. Dieu n'abandonnera jamais son projet d'être notre Dieu et de faire de nous son peuple. Et même quand on a l'impression qu'il regarde ailleurs, il sait exactement ce qu'il fait. Et même si des fois je me dis, j'aurais pas fait comme ça, j'aime bien dire ça à mon mari des fois, j'aurais pas fait comme ça, et l'intelligence de Dieu, elle est impénétrable. On est, nous, dans l'incertitude, mais lui, il ne l'est pas. Et quand on dit que Dieu ne se soucie pas de nous, on est comme les disciples dans la tempête, dans leur barque, paniqués pendant que Jésus dort dans la barque. Et ils lui disent, mais Jésus, ça ne te fait rien qu'on va mourir? Et Jésus leur dit, mais pourquoi vous avez peur? Je suis littéralement dans la barque. Notre regard, il est souvent limité à notre tempête, notre expérience, notre petit monde. Et on ne voit pas que Dieu contrôle tout et qu'on peut lui faire confiance parce qu'il se soucie vraiment de nous. Et on n'a pas toujours cette assurance, pas vrai, que Dieu se soucie de nous. Parce que vous, des fois, vous vous sentez un peu lasse et fatigué. Je parle à une conférence de femmes, donc je pense qu'on peut toutes dire oui. Je me sens souvent là, c'est fatigué entre le travail, les projets, les rendez-vous, les choses à gérer. Forcément, on s'épuise. Et j'aime bien l'image que nous donne le prophète. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Est-ce que vous avez des adolescents à la maison qui sont fatigués, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont épuisés tout le temps? Et là, le prophète Ésaïe, quand il parle d'adolescents, en fait, il parle de jeunes hommes. Il parle de guerriers, de gens qui cultivaient la terre, là, qui avaient des gros biscottos, des athlètes, qui sont censés être au top de leur forme. Et bien, même eux, ils chancellent. Alors, comment est-ce que nous, on est censé tenir, du coup, si même eux, ils chancellent? Mais lorsqu'on lève les yeux vers Dieu, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sa force, elle devient la nôtre. Alors si je mets le verset suivant au féminin, celles qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Elles prennent leur envol comme les aigles, elles courent sans s'épuiser, elles marchent sans se fatiguer. Ça fait trop envie. Elles restent sereines dans les temps troublés parce que leur paix ne dépend pas d'elles-mêmes, mais de celui en qui elles ont placé leur confiance. La clé, c'est la confiance en Dieu, et pas un petit Dieu, un grand Dieu. Alors concrètement, ça veut dire quoi, compter sur Dieu? Ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui se confient en lui, renouvellent leur force. Alors comment on fait pratiquement? Tim Keller disait, compter sur Dieu, ce n'est pas souhaiter de façon incertaine et anxieuse que Dieu valide nos projets, mais c'est reconnaître que lui seul est digne de confiance, que tout le reste décevra et que son projet est infiniment sage et bon. Il raconte l'histoire d'un homme atteint d'un cancer. Et c'est d'autant plus parlant, je trouve, quand on sait que Tim Keller est lui-même mort d'un cancer. Il dit, si cet homme il place sa confiance dans la médecine, alors un compte-rendu mauvais lui sera fatal, lui sera dévastateur. Mais si son espérance finale est dans le Seigneur, il sera comme une montagne inébranlable, libre d'une attente angoissée. Il prendra son envol comme l'aigle. Et en ça, même les femmes de 80 ans, la femme qui a la sclérose en plaques, la femme qui lutte avec des maladies ou des difficultés, elles seront inébranlables parce qu'elles ne craignent rien, parce qu'elles sont capables d'accomplir ce que Dieu nous confie, ressourcées, confiantes, apaisées, peu importe la tempête. Parce qu'à la croix, Dieu nous a déjà offert la délivrance de notre plus grand trouble, notre plus grande incertitude, notre plus grande angoisse, la mort éternelle. Alors oui, comme l'aigle, on peut prendre de la hauteur, on peut remettre les choses en perspective. La victoire sur notre plus grand ennemi nous assure que toutes les autres victoires sont possibles aussi. Et que même si Dieu agit autrement que ce qu'on espérait, ce n'est pas la pire chose qui pourrait nous arriver. Parce que la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est d'être séparés de Dieu. Et j'ai en tête l'image d'un film que j'aime bien, Le Seigneur des Anneaux, où Frodon et Sam, ils sont entourés de lave et ils sont en paix. Parce qu'en fait, ils viennent de détruire l'anneau. Ils savent que Sauron, le grand mal de leur siècle, est vaincu. Et tout à coup, il y a un aigle qui vient, qui les emmène au-dessus de tout ça, qui les amène à Fondcombe, le pays des elfes. Un aigle est venu les sauver. Et ma fille, elle a dû apprendre cette vérité récemment. En fait, elle a été bouleversée par l'histoire d'un petit Ukrainien qui est arrivé dans sa classe, qui avait perdu son père à la guerre, qui avait dû fuir leur pays. Et en fait, elle avait des angoisses terribles. Elle n'arrivait plus, elle est grande, pourtant, mais elle n'arrivait plus à nous quitter. Je l'amenais à l'école, je devais la décrocher au pied de biche pour qu'elle rentre dans sa classe. Elle ne voulait plus dormir chez des copines alors qu'elle le faisait souvent. Elle était paralysée par la peur. Et en fait, on a réussi, avec de l'aide, à lui faire dire « En fait, j'ai peur de la mort ». Et avec de l'aide et de la prière, on l'a amenée voir quelqu'un avec qui elle pouvait parler. Et puis nous, on l'a accompagnée spirituellement. Et elle a pu s'approprier. C'était tellement beau de la voir, saisir ça, cette vérité dans son cœur. Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme d'Heidelberg, mais si vous avez des enfants, je le recommande vraiment. Et une des questions qu'il enseigne, c'est « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» Dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Et quelle assurance! Mes sœurs, on peut être sereines. Soyons sereines. Dieu a payé le prix fort pour qu'on puisse traverser les temps troublés dans la paix. Il vient nous sauver, il peut nous sauver et il veut nous sauver. Pour la suite, c'est toi qui annonce la suite, les plus temps de discussion.
Merci beaucoup.